Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Ugraine, gynécologue obstétricien, président du CA du Centre de l'Aube. Il est accompagné par Jean-Luc Tournier, formateur de ce même centre et ex-gérant de société et qui participe à la direction du Centre de l'Aube. Ils sont venus, outre réagir aux derniers événements, présenter les prochaines activités proposées par ce centre qui réside, si je ne m'abuse, à Piégros-Laclastre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Louis.
Bonjour Louis.
Alors avant de commencer à présenter et le Centre de l'Aube et ses activités dans le prochain trimestre et même au-delà, vous avez voulu réagir un petit peu aux événements qui ont endeuillé la France récemment.
Oui, alors c'est vrai que j'ai reçu comme tout le monde ce choc et il m'a fallu un certain temps de digestion pour voir où est-ce que j'étais interpellé et finalement qu'est-ce que ça faisait remonter en moi. Et en regardant vers moi-même, je dirais ce que j'ai rencontré, c'est un choc, c'est-à-dire le simple fait qu'un homme puisse viser un autre avec un fusil est pour moi quelque chose d'effrayant et qui me produit une question, c'est comment on peut en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé que je n'ai pas vu arriver et qui peut produire une telle chose? Parce qu'autrement, on peut penser qu'il y a des gentils, des méchants, mais si on regarde dans l'histoire de l'humanité, nous avons tous été tour à tour d'un côté et de l'autre du fusil, quel que soit le pays auquel nous appartenons. Et donc ce n'est pas une question de bon ou de méchant, c'est une question d'humanité qui nous concerne tous. C'est la première chose que je voulais dire par rapport à ça. En sachant qu'on dit tous aussi détester la violence, mais si on regarde de près, on joue à des jeux vidéo où on tue, on regarde sur nos écrans télé plein de séries où on tue, on va au cinéma et on tue encore. Alors je sais bien, c'est pas pour de vrai, mais même si c'est pas pour de vrai, c'est bizarre que nous ayons ce besoin de nous détendre soi-disant en regardant de la violence, en regardant la mort. Et que j'ai comme tout le monde joué à ce jeu vidéo, comme tout le monde je suis allé au cinéma, et puis il y a un moment où j'ai pas pu parce que le principe même, comme je disais tout à l'heure, de viser un humain avec une gâchette me semble contre l'humanité même.
Oui, mais alors quand on parle de polar par exemple, il y a une fonction d'exorcisation de la violence que nous avons tous en nous, ne serait-ce point une justification de cette violence que l'on voit sur ces séries télé ou dans ces romans policiers?
Peut-être bien qu'en effet, il y a un certain exorcisme. Et puis, en tout cas, si je regarde, je peux parler que de moi, hein, je ne peux pas donner des leçons à qui que ce soit, mais moi, il y a certains films où il y a de la violence, mais c'est tellement caricatural, tellement il y a les bons, les méchants, c'est tellement enfantin, je dirais, du point de vue de la violence, qu'à la limite, ça m'amuse. James Bond m'amuse, je ne trouve pas que ce soit violent. Par contre, dès qu'il y a des implications psychologiques, dès qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une perversion intérieure qui va essayer de faire du mal, qui va essayer de torturer psychiquement ou physiquement, je trouve ça insupportable parce que ça ressemble trop à ce qu'on rencontre tous les jours dans la vie et contre lesquels on essaye de lutter ou là où on essaie d'amener de la paix. Donc je crois qu'en effet, il y a peut-être des choses qui sont de l'ordre de l'exorcisme, mais l'autre question que je me pose, c'est on devrait en face de ça avoir des films de paix que l'on regarde de temps en temps. Des films de guerre, je veux bien, mais on devrait avoir un certain nombre de films de paix. Il y a des très très beaux films qui existent. Voilà, bon, il se trouve que je viens de voir le film sur Gandhi, mais il y en a énormément d'autres dans d'autres styles. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est quand même étonnant de la part de l'humain.
Je m'associe tout à fait à ce que vient de dire Hugues. Je partage complètement ses points de vue. On a eu la chance avec Hugues, dans les années 85, 86, 90, de rencontrer une dame qui était d'une forte sagesse. Elle s'appelait Gita Malas, auteur d'un livre qui s'appelle Les dialogues avec l'ange, qui a été fortement reconnu dans le monde entier. Et cette femme-là, moi, elle m'a beaucoup touché à cette époque-là, et ça rebondit, ça résonne beaucoup maintenant, en disant « la Terre est comme un corps ». Et donc, faite de cellules. Et si jamais quelqu'un prend la force de tirer et tuer un autre à quelque part dans la planète, peut-être que le début de la crise, le début de cette violence, elle est dans nos salons, dans nos salles à manger, dans nos relations avec nos couples, quoi. Et donc, moi, je crois fermement depuis ces attentats, c'est cette phrase, elle m'est revenue souvent en disant, mais moi, si j'essaye de dire des mots de paix, déjà à moi-même, des mots d'amour, déjà à moi-même, pour pouvoir mieux les dire aux autres, peut-être je vais pouvoir contribuer à faire en sorte que cette violence diminue. Ça, je m'y raccroche, je le crois de plus en plus fort. C'est un peu l'image du colibri qu'a repris Pierre Rabhit et qui est magnifique. Petit oiseau qui va essayer d'éteindre un incendie avec son petit bec. C'est peut-être inutile du point de vue des humains, mais mon Dieu, il a fait ce qu'il a pu. Donc, moi, je vais essayer de me mettre en paix. Je ne suis pas un homme de paix, je suis encore un homme qui rentre dans des colères, des fois qui rentre dans des souffrances. Je vais essayer de me mettre en paix déjà pour être en paix avec les autres, parce que automatiquement, le degré de paix que j'ai au fond de moi-même va rejaillir forcément immédiatement envers les autres.
Je me fais l'avocat du diable parce que je partage votre point de vue, bien sûr, sur le fait qu'il vaut mieux commencer par soi. Hein, la célèbre phrase de Gandhi, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », résonne... J'espère un peu partout.
Bien sûr.
Néanmoins, on pourrait vous traiter de doux idéaliste utopiste parce que vous parliez des films, vous parliez même de cette violence qui est partout. Cette violence qui est partout finit par nous contaminer tous en fait. Et c'est vrai que c'est important de savoir rester soi-même imperméable, enfin ne pas se laisser contaminer par cette violence. C'est tout le challenge actuel.
Oui, complètement. C'est certain qu'on ne peut pas être indemne de la violence extérieure et qu'elle produit quelque chose intérieurement. C'est évident que quand on voit ce qui se passe à Paris, j'ai comme tout le monde un sursaut en disant « il faut détruire ces êtres-là ». Et tout d'un coup, je me dis « comment tu peux penser comme ça ? Comment tu peux penser ?» Même si je peux comprendre qu'on ait fait tout ce qu'on peut pour choper ces êtres-là, je peux comprendre. Mais il y a quelque chose qui fondamentalement est choquant d'un point de vue de l'humanité. Et puis par rapport au doux idéaliste, je suis complètement d'accord. Mais peut-être que c'est pas mal d'être idéaliste. Et puis je crois que là aussi, il se trouve que récemment, je suis tombé complètement par hasard, avant ces événements d'ailleurs, sur le film de Gandhi. Et il dit une phrase qui m'a beaucoup touché et qui reprend un peu l'histoire du colibri. Il disait « Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l'histoire, les lois de la vérité et de l'amour ont toujours triomphé. Tout au long de l'histoire, il y a eu des tyrans et des assassins. Pendant un temps, ils peuvent sembler invincibles. Mais un jour, il tombe. Toujours. Pense à cela. Toujours. » Et ça, ça me redonne de l'espoir. Je pense que Gandhi aussi a dû douter par moments de tout cet effort qu'il fallait faire et qui semblait peut-être dérisoire. Mais je crois qu'on n'a pas d'autre solution. Parce que plus on va attiser la haine, plus on va recevoir la haine et plus elle va grandir en nous.
Certes, néanmoins, pour déradicaliser, déshystériser quelqu'un qui s'est radicalisé, il faut des moyens humains que pas beaucoup de sociétés prennent en fait. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour lutter pacifiquement sur le plan des idées, voire des idéaux.
Oui, oui. À partir du moment où l'idéal est devenu tué et qu'il s'est inscrit dans l'humain profondément, on est devant un constat d'échec. On en est arrivé à un point où il n'y a plus de solution possible dans l'immédiateté, on va dire. Par contre, on peut quand même se poser la question, parce que là, ce sont quand même des Français, qu'on n'a pas su faire avec eux pour qu'ils se sentent aussi mal reçus par la France, aussi ennemis. Ce qui ne veut pas dire qu'on a tous les torts. Je ne veux absolument pas dire, je pense qu'il y a quelque chose qui leur appartient totalement. Mais on ne peut pas faire quelque chose. Ce qui nous appartient à nous, on peut quand même s'en occuper. C'est ça que je dis. Et que là, il y a quelque chose où nous devons nous choisir notre camp, d'être plutôt des hommes de paix, plutôt des hommes de guerre. Vous savez, moi je crois qu'il y a aussi une autre phrase qui me touche beaucoup, c'est dire on ne lutte pas contre les ténèbres, on fait entrer la lumière. Donc se battre contre le mal, je ne suis pas sûr que ce soit... Il faut quelquefois le faire, bien évidemment, on est obligé dans la situation dans laquelle on est. Mais que prendre les choses à l'avance, ce serait s'occuper de la lumière et être des êtres qui essayons, comme le disait Jean-Luc, parce que je suis comme lui, je ne suis pas un homme de paix spontané, moi. J'arrive à la conquérir le plus souvent possible, mais je ne suis pas tout le temps.
Je continue dans ce prolongement parce qu'il est important, c'est qu'est-ce qui nous a manqué dans notre société française pour que tant de jeunes partent en Syrie et se radicalisent à ce point-là. Il me revenait une image, moi j'ai beaucoup travaillé quand j'étais jeune dans les banlieues, j'étais éducateur de quartier et c'est vrai, ce qui était très très touchant, c'est que dès qu'on mettait une considération, dès qu'on accordait une importance à la personne qui était en face, on avait un retour au centuple de l'énergie qu'on avait mis. C'était fragile, c'était éphémère, des fois ça se détruisait dans l'heure qui suivait, il fallait recommencer. Mais c'était ce qui était important pour eux, c'est qu'ils se sentent des hommes, qu'ils se sentent des êtres, pris des enfants, pris en considération totale. On voit bien qu'on n'a pas peu de solutions dans nos banlieues, on a peu de solutions pour reconnaître ces jeunes qui ont comme univers simplement les taux ondulés et les cris des voisins et le chômage. J'étais très touché, moi, dans les années 80, quand je travaillais dans ces banlieues, de voir des jeunes qui étaient pharmaciens, études de pharmacien, qui étaient bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7, qui étaient issus de cette génération, deuxième génération d'immigration, qui n'ont jamais trouvé de travail, qui se retrouvaient après éducateurs de quartier parce qu'il y a de là qu'on les acceptait. Donc c'est certain qu'on a un problème de fond dans la considération de ces aides qui font des banlieues qui n'ont vraiment, vraiment aucun avenir. Et l'autre travail qui est à faire, nous, alors je rejoins tout à fait ce qu'a dit Hugues, ça n'excuse pas, ça n'excuse rien du tout. Ce carnage est vraiment abominable, ces aides sont vraiment des lâches. Mais nous, si on regarde du point de vue de notre responsabilité de société, là on a du travail à faire. C'est pas essentiellement mettre du monde, il y en a, c'est vrai, il y en a suffisamment, c'est donner un peu plus de moyens financiers, ils ont été beaucoup réduits depuis les années 80, moment où je travaillais dans ces milieux-là. Mais c'est surtout donner de l'attention, considérer que l'être qui est en face de nous est un être à part entière, qu'il a besoin de toute la considération et de tout le respect qu'il mérite.
Il ne faut pas s'étonner non plus. Hein. Quand on compare le budget de l'administration pénitentiaire américaine, par exemple, hein, il est je ne sais pas combien de fois supérieur au budget de la prévention. Hein. Ouais. Donc on préfère punir que guérir. Et je voudrais aussi dire cette petite phrase, puisque apparemment vous aimez bien les petites phrases, et moi aussi, c'est l'abbé Pierre qui disait « Pour supprimer le terrorisme, il faudrait éradiquer la misère ». Tout simplement.
Oui. Hein.
Regardez ce que subissent les Palestiniens depuis 1948. Peut comprendre qu'il soit énervé. Je m'en veux de dire ça parce que je pourrais offrir comme une légitimation à la troisième intifada des couteaux, mais en tout cas, moi je pourrais comprendre si j'étais mis dans un univers à ce point clos et sans perspective aucune. Je pourrais être énervé, hein, parce que j'ai pas besoin de tout ça pour être énervé des fois.
Mais je crois, Louis, c'est très important ce que vous dites. Je crois qu'en fait, on peut comprendre, ça ne veut pas dire qu'on justifie. Mmh. Ce sont deux choses différentes. Ça ne se justifie pas, mais par contre, on peut nous essayer de comprendre. Et comprendre leur monde et comprendre le nôtre et comprendre ben, qu'est-ce qui a manqué.
Et à chaque fois, ça se renvoie vers soi, vers se dire où est notre responsabilité à chaque fois. C'est une dignité citoyenne. À chaque fois, de se renvoyer vers soi, de se dire mais où est-ce que moi, dans mon comportement de tous les jours, où est-ce que notre société à laquelle je contribue, société française à laquelle je contribue tous les jours, nous sommes responsables d'événements qui peuvent se produire ainsi. C'est des fois pas facile à voir, c'est sûr.
Juste encore une fois, une petite expérience qui a eu lieu en Inde, dans la plus grande prison du monde, qui est d'à côté de New Delhi, qui était une prison d'une violence extrême. Quand vous mettez une concentration gigantesque de détenus sans perspective et sans avenir, il y avait une violence inouïe. Et il y a une technique de méditation qui a commencé à proposer des stages de méditation, hein, c'est Vipassana, et le taux de criminalité... a baissé considérablement. Et je vous rejoins en disant que, de toute façon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les spiritualités orientales. C'est que le monde est une vaste conspiration pour me faire oublier moi. Et que, justement, si on est happé par la colère, par la violence externe, on peut oublier qu'effectivement, à l'intérieur, pourrait se trouver effectivement la paix. Ouais. Si d'aventure, on ne l'oubliait pas et on prenait les moyens corrects. Mais c'est là, moi, où je suis un tantinet inquiet. C'est que les valeurs promues par la société actuelle ne sont pas forcément les meilleures. Et de ce point de vue-là, il y a encore un travail, mais est-ce que les gens, ils ont envie de changer les valeurs promues en ce moment, matérialisme, capitalisme, compétition
Oui, mais ce que vous dites, Louis, c'est quand même encourageant, parce que ce soit que des expériences ponctuelles à droite et à gauche, c'est normal. Et ces expériences ponctuelles, parce qu'elles font preuve d'efficacité, elles vont être prises petit à petit et peut-être prendre de plus en plus de place. Et ça, les choses se font toujours comme ça.
Comme on dit, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est l'erreur qui meurt.
Ouais. Et puis, si l'erreur nous sert à trouver la vérité...
Sait-on jamais.
Bon.
Alors, surtout, on va peut-être clore ce débat qui, effectivement, pourrait prendre l'intégralité de cette émission, mais ce n'était pas tout à fait le sujet. Vous avez souhaité dire un petit peu votre ressenti, et c'est compréhensible,
oui, mais
votre émotion.
Je pourrais expliquer pourquoi on a souhaité aborder les choses comme ça. C'est parce qu'en fait, nous, on essaye maintenant de rentrer dans le concret. C'est-à-dire que si nous sommes pas toujours spontanément des êtres de paix, et plutôt des êtres de guerre, dans certaines circonstances du couple, de la vie, etc., on va essayer, nous, maintenant, de rentrer dans le concret et de voir comment on pourrait être plus des hommes de paix dans chaque situation. Et tout ce que nous proposons à l'Aube, c'est ça. Le principe de l'Aube est assez simple, puisqu'on devait aussi parler de l'Aube. L'Aube, c'est un lieu qui incite l'homme au meilleur de lui-même, et en commençant par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas des donneurs de leçons, on est des êtres qui, nous-mêmes, cherchons à être un peu meilleurs tous les jours et qui essayons de nous inciter nous-mêmes et ceux qui viennent à être meilleurs. C'est vraiment, je crois, le point central sur lequel on s'appuie à l'Aube.
Donc en fait, l'Aube est un centre de développement personnel et dans lequel vous proposez un certain nombre de séminaires, d'ateliers pour aider les gens à mieux se connaître et à trouver le chemin de la paix intérieure.
Voilà, on peut le dire comme ça. Moi, il me semble qu'on peut aussi le dire autrement. Je crois que tout au long de la vie, on apprend à aimer. On apprend à aimer sa maman, on apprend à aimer la famille qui est plus vaste, on apprend à aimer l'autre sexe et avoir des amis, c'est encore plus vaste. Donc on grandit en amour. La banque d'amour s'agrandit. Eh bien, nous, on essaye que cette banque d'amour continue à s'agrandir.
On vient de représenter le Centre de l'Aube parce que vous êtes déjà venu un certain nombre de fois annoncer un certain nombre d'activités et d'ateliers. Plus précisément, plus concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains jours même et les prochains mois ?
Alors le week-end prochain, je ne sais pas si vous aurez le temps de l'annoncer parce que c'est vrai qu'on n'est pas très en avance, hein, mais le week-end prochain, donc, j'anime un week-end pour les couples. Et on sait à quel point le couple, ce n'est pas facile. Hein, y a la moitié des couples qui divorcent. Quelquefois, ils restent ensemble, mais ils ne sont plus vraiment ensemble. Donc, on commence par une très belle histoire et puis ça se termine par des déchirements. On sait très bien que le couple, ce n'est pas simple. Et moi, j'aime bien dire que j'aurais aimé être averti avant, moi, quand j'ai commencé mon couple. Si on m'avait dit, bah, voilà, le couple, ça commence comme ça, et puis il y a des épreuves, et ces épreuves, on les franchit comme ça. Et donc moi je me suis affronté à beaucoup de difficultés dans le couple et je me suis dit que j'avais essayé de les franchir tant bien que mal et que si je pouvais peut-être aider les couples en difficulté, d'autant que je suis gynécologue obstétricien et donc que je les croise tous les jours, et c'était peut-être au moins qu'ils sachent ce qui les attendait.
Oui, mais si vous aviez été avisé de la difficulté de ce challenge, peut-être que vous n'auriez même pas osé vous lancer dans une histoire de couple.
Alors c'est possible, mais alors la vie est bien faite, c'est qu'elle nous met une telle attirance pour l'autre sexe en principe, ou pour le même sexe, mais pour le contact intime avec l'autre, qu'il y a des forces colossales qui se mettent en route pour lutter contre cette force qui en effet dit « c'est trop compliqué, je préfère pas ». Mais c'est le même principe quand on veut un enfant. Hein. Vouloir un enfant, c'est un peu une folie. Et en même temps, c'est tellement puissant qu'on se laisse convaincre par la vie. Mais en fait, si on était raisonnable, on n'aurait jamais d'enfant.
Alors dans ce week-end, qu'allez-vous proposer ? Parce qu'encore une fois, je vous prie de m'excuser, j'adore ce terme de « concret ». Vous avez des trucs, des méthodes pour passer les tourments que traversent la plupart des couples ?
Oui, je vais en donner un. Je peux pas prendre toute la parole là pour tout parler du couple. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que dans le couple, on a des petits agacements et des petites choses qui nous irritent. Ça commence un peu comme ça, le moment où ça va pas très bien. Et on pense toujours que c'est parce que l'autre fait pas ce qu'il faut. Donc on a des reproches envers l'autre. Et donc ces reproches, ils sont dits ou pas dits, selon la personnalité de chacun, ils s'accumulent et ils créent de l'aigreur, cette aigreur va créer des guerres, etc. Et donc moi je leur dis, écoutez, vous avez le droit de souffrir, vous avez le droit, mais on va changer un peu la donne, c'est-à-dire qu'au lieu de reprocher à l'autre, vous allez lui confier votre douleur. Et donc dans le week-end, on organise un moment qui est très construit pour qu'ils arrivent dans l'état intérieur qu'il faut, et on passe de reproche à confidence. C'est-à-dire que reproche c'est tu as tort, la confidence c'est je souffre de telle situation. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on fait ça, et ça a des effets incroyables sur les couples. Vous savez, on reçoit des couples qui sont au tout début, qui ne veulent même pas encore engager, qui veulent savoir justement, enfin, qu'est-ce qui les attend. On en a d'autres qui vont bien, mais qui voudraient finalement voir d'autres dimensions du couple. Puis il y en a qui sont en crise, il y en a qui sont en difficulté, il y en a qui sont en train de se séparer. Donc tous ces différents couples, eh bien, cette proposition qu'on leur fait les aide vraiment. Donc voilà un outil très concret, très précis, et qu'on utilise chaque week-end.
Donc ça aura lieu le 28-29 novembre. Et puis ensuite, que se passera-t-il ?
Alors, le samedi 5 décembre, moi je vais organiser une journée atelier. Moi et mon argent, vivons-nous bien ensemble. Et tout à l'heure, quand on en parlait, Louis, avant l'émission, vous avez levé un petit sourcil en disant « Oh, comme c'est important !» Et c'est vrai, c'est ce qui me touche, c'est qu'en distribuant mes flyers, en parlant à droite et gauche, ou les gens qui me disent « Mais bon sang, comme c'est important, comme c'est difficile, comme c'est intéressant comme sujet. » Je pense, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent de cette relation à l'argent. Ce n'est pas lié essentiellement à un phénomène de pauvreté, parce que, bien sûr, c'est la grande majorité. Mais on va dire qu'il y a des riches, des fois, qui souffrent d'un sentiment de pingrerie. Il y a des gens qui dépensent sans prendre en considération ce qu'ils gagnent. Il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles sont devant un rayon de supermarché, elles n'arrivent pas à se décider, elles repartent sans faire un achat, parce que rien que le fait d'acheter, c'est hyper douloureux. Donc on va dire, ce qui m'a touché, moi, c'est que cette relation que l'on a avec l'argent parle de nous-mêmes, c'est certain. Et que si jamais on n'arrive pas à se connaître, à se mettre en paix avec soi-même, c'est un des éléments de la vie qui est important qu'on n'arrivera pas à gérer et on reproduira sans cesse les erreurs. Alors ce qui m'a conduit un petit peu à développer ces actions aussi, c'est que j'accompagne une personne Il y a quelques temps qui me disaient, mais tu sais, il n'y a pas de lieu dans, où on peut vraiment se confier. Parce que je me suis rendu compte que parler de l'argent, parler de ses souffrances d'argent, est assez honteux. C'est un peu comme parler de la sexualité. C'est des sujets qui demeurent un peu tabous. Donc, bien sûr, il y a des services sociaux qui font très bien leur travail. Bien sûr, il y a des conseillers financiers. Mais cette personne me disait, mais on me reproche d'acheter une crème qui est chère. C'est un petit peu moraliste. Oui, c'est juste, il faut. Je pense que la société, elle doit effectivement mettre ses bornes et dire à quelqu'un non, tu dépenses, ça c'est pas juste parce que tu vas te mettre en découvert et après ça a des conséquences sur ta vie et sur la vie de l'ensemble. Mais les services sociaux font bien leur travail comme un garagiste réparait un pneu qui s'use sans avoir les moyens de s'intéresser à la cause. Donc, moi, l'action que je vais proposer s'intéresse à la cause. Qu'est-ce qui fait que, mon Dieu, je dépense sans prendre en compte ce que je gagne. Et de là, étudier un peu nos différents fonctionnements que l'on peut avoir au fond de nous-mêmes, qui nous font à un certain moment avoir une dépense compulsive ou au contraire avoir une retenue de l'argent. Donc voilà, c'est l'ensemble de l'action que j'ai proposée. Dans un premier temps, il y a aussi une deuxième motivation qui est importante. Elle est plus citoyenne, celle-ci. C'est si moi je suis juste, et elle rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos des attentats, c'est si moi je suis juste avec mon argent dans une société qui est devenue un petit peu fausse, parce que quand même penser que 20% de la population mange des richesses de la totalité, qu'il y en a 80% qui souffrent, on se rend compte assez facilement que on a un petit peu, l'argent est devenu un peu pathologique dans notre société actuelle, surtout contemporaine, surtout industrielle. Donc comment moi être juste avec mon argent, c'est-à-dire savoir payer au centime près sans tricher ce que je dois, et attends, ça va me faire payer en retour exactement ce que l'on me doit, de gérer ça d'une manière comme on gère son ménage, comme on gère sa toilette, comme on gère son garde-manger, gérer son argent de façon juste, contribuerait effectivement à avoir une société plus juste autour de soi. C'est un peu facile de dire on a des banquiers qui sont pourris, ils ne sont pas tous pourris déjà les banquiers. C'est un peu facile de dire on a des politiciens qui sont véreux, c'est un peu facile de dire on est la société, on a la société qu'on mérite, mettons-nous. Je reprends votre petite phrase tout à l'heure qui était de Gandhi. Soyons le monde que l'on souhaite. Commençons par nous-mêmes.
Encore une fois, est-ce que quelqu'un qui suivrait votre atelier et qui souffrirait d'un manque chronique de finances pourrait trouver le hic du hoc qui fait qu'il est perpétuellement en train de courir après de l'argent ?
Oui, bien sûr. Parce qu'on va identifier d'une façon très claire. Quelqu'un, très souvent, les gens, c'est par manque d'argent qu'ils viennent voir, qu'ils viennent consulter, c'est qu'ils n'en ont pas assez. Et on s'est rendu compte, par exemple, sur certains cas, qu'une personne avait un salaire qu'elle considérait juste dans sa société et qui n'était pas du tout à la hauteur du salaire qu'elle méritait, parce qu'elle est bien en dessous de la convention collective, mais mis l'égalité avec ses collègues. Simplement de voir à quel point c'était nécessaire pour elle, cette personne avait tellement peu de valeur pour elle-même que c'était normal. C'était rentré dans un processus normal, une fatalité, comme quoi, de toute façon, elle ne méritait pas mieux. Donc, le fait d'apercevoir ce fonctionnement, le fait d'apercevoir et de le tolérer, pas de le corriger, parce que ce n'est pas du tout notre concept. Nous, on n'a pas à se redresser par rapport à nos faiblesses. On a à les accueillir, les voir, les accueillir avec beaucoup de bienveillance pour pouvoir agir différemment et en conscience. Donc, elle a pris conscience de ça. Elle a pris conscience, effectivement, que, eh bien, elle ne méritait aucune valeur. Ayant pris conscience de ça, ayant vu à quel moment précis ça se situait, elle a gagné 500 euros de plus le mois suivant. Voilà, donc c'est possible. Après, il y a plein d'exemples comme ça de gens, d'artisans qui sont hyper performants, mais qui, pour paraître vraiment des nullités dans leur entourage, ne font pas leur facture à temps. Voilà, c'est tout un tas d'exemples qu'on pourrait citer de gens qui aperçoivent leur fonctionnement, ne tentent pas de le détordre, mais plutôt de vivre avec bienveillance avec eux-mêmes pour pouvoir agir en conscience.
Je suppose que comme vous avez une estime adéquate de vous, c'est un stage qui est un petit peu payant.
Oui, bien entendu.
C'est-à-dire ?
La journée découverte, elle fait 50 euros. Il y a 3 temps qui sont importants dans cette journée. Il y a un temps de bilan. La journée découverte, l'atelier découverte est simplement fait pour présenter le travail à long terme que l'on pourrait faire pour gérer durablement et d'une façon permanente les relations qu'on a avec l'argent. Parce que, je vais faire une petite parenthèse, c'est pas parce qu'on se connaît, qu'on a des travers par rapport à certains secteurs de la vie, notamment l'argent, que ça va pas se renouveler, ça sera jamais guéri. Ça sera toujours un rendez-vous où on va être en contact avec son fonctionnement qu'il va falloir voir, apaiser pour pouvoir gérer. Donc, c'est quelque chose qui est à long terme et qui se déroulera tout au long de notre vie, quoi. Tout ça pour en venir qu'il y a 3 temps dans cette journée qui est importante. Il y a le premier temps, c'est un temps de bilan où en suis-je avec mon argent, comment je fais pour dépenser, quelles sont mes économies, comment j'y prends, etc., etc. Enfin, tout un questionnaire qui permet de faire vraiment une photographie d'où j'en suis dans ma situation financière. Ensuite, on va commencer un petit peu à se comprendre. Comment on fonctionne? Donc, sur une journée, ce n'est pas possible, faut le comprendre. Mais quelle est la stratégie qu'on va employer? Quelle est la méthode qu'on va utiliser? Donc, c'est souvent à partir de jeux de mise en situation qu'on va voir, qui sont un peu microscopiques, c'est-à-dire qu'on va tendre un petit peu, on va prendre le quotidien, on va le tendre un tout petit peu, on va le tordre un tout petit peu pour le mettre plus en évidence, pour voir comment ces fonctionnements se déroulent progressivement, quoi. Et après, tout un temps de réflexion sur comment, et puis de travail technique, c'est comment je m'y prends pour gérer un budget, quoi.
Voilà. Et si je ne m'abuse, cette première journée d'atelier sera suivie d'autres formes de travail sur ce thème.
Voilà, parce que cette journée d'atelier, elle est faite pour se rendre compte comment ça fonctionne. Il y a des gens qui vont dire, oh, ça me suffit, ok, ça va me convenir, ou ça ne me convient pas. Puis il y a des gens qui vont dire, ah, moi, ça me convient, j'ai envie d'aller plus loin. Donc après, effectivement, en janvier va démarrer une session. Ça sera sous forme d'un week-end par mois, donc il y a 3 week-ends. Parce qu'en 6 jours, on arrive vraiment à faire une immersion totale dans notre sujet. Donc sur 6 jours, il y a 3 fois 2 jours. Donc, il va y avoir tout un processus. Il y a aussi une autre formule d'un stage qui sera en février. Là, c'est sur une semaine. On fait vraiment une immersion à l'intérieur de soi-même et à l'intérieur de cette fonction argent sur 5 jours. Voilà.
Peut-être qu'on sera amené à se rencontrer pour que vous nous présentiez plus profondément comment faire pour être multimillionnaire.
Non, c'est bien vrai, mettre l'argent dont on dispose et dont on a besoin.
Et si on en a besoin de beaucoup?
Eh bien, on se débrouille pour l'avoir.
Ensuite, Monsieur Rennes, le Centre de l'Aube va proposer un week-end sur un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, à savoir l'évolution et la phylogénèse, et ça aura lieu le 5-6 décembre.
Oui. Alors c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant, non seulement personnellement, mais je trouve que c'est vraiment que tout le monde devrait connaître quelque chose à la phylogénèse, qui est donc l'histoire de la vie sur Terre, parce que c'est notre histoire. Quand Hubert Reeve dit « nous sommes poussière d'étoiles », ce n'est pas une image, c'est une réalité. Cette réalité, elle nous a fait passer de minéral à végétal, à animal, à humain, dans une lente évolution. Et connaître les étapes de cette lente évolution, c'est très important pour savoir où nous en sommes aujourd'hui et quelle est notre place. Ça permet aussi de comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, on dit la Terre est en danger. On sait très bien que maintenant, la Terre n'est absolument pas en danger. La Terre, elle va très très bien. Elle a traversé des crises énormes, beaucoup plus puissantes que ce qui est en train de lui arriver. Elle s'en est toujours sortie. Par contre, celui qui est en danger sur Terre, c'est l'homme. Ça, c'est absolument certain. Est-ce que l'homme va être capable de continuer à vivre sur ce qui lui a donné vie, puisque la Terre lui a donné vie, et que quand on abîme la Terre, on abîme sa mère. Si on abîme sa mère, on n'est pas sûr de continuer à vivre, surtout si on a un tout petit enfant. Mais l'homme a cette capacité. Et donc, étudier la phylogénèse, c'est comprendre d'où nous venons, où nous en sommes et où nous allons. Et j'aime bien aussi expliquer ça parce que c'est central. C'est que toutes les formes de vie, depuis le début, elles ont chaque fois amené un pas dans l'évolution. Chaque forme de vie a amené un pas. Le végétal est sorti de l'eau, il a fait des tiges, il a dressé des capteurs solaires, l'animal a inventé le sang chaud, etc. etc. Et que la question qu'on peut se poser, et justement qui rebondit sur ce qu'on a dit peut-être en introduction, c'est quel est le pas actuel que nous devons faire en tant qu'individu et qui va aussi être un pas pour l'humanité. Parce que toute forme de vie doit amener un pas supplémentaire, toute forme de vie doit amener la suite de ce qui a déjà existé. C'est pour ça que l'évolution, comprendre l'évolution, les étapes de l'évolution, les lois de l'évolution, ça me paraît essentiel pour se comprendre dans son présent, dans son passé bien sûr, dans son présent et dans son futur.
Et alors quel est ce pas pour être un peu plus concret? Peut-être la conscience?
Oui, c'est ce que, alors chacun le dit à sa façon. On peut dire conscience, on peut dire ce que tout à l'heure on le prenait sous un autre angle. On disait c'est faire grandir notre banque d'amour, aimer plus, c'est arrêter de faire des guerres, bien sûr. Mais pour ça, il faut comprendre autre chose qui me passionne totalement, c'est comprendre comment fonctionne l'humain. Je crois qu'on en avait parlé peut-être avec vous, Louis, il y a une fois ou deux, je ne sais plus. Mais l'humain, il a quelque chose de très particulier, c'est dans sa perception du monde. Et l'humain ne perçoit pas le monde, mais perçoit le monde à travers son histoire. C'est quand en Inde, on dit Maya, l'illusion. L'illusion, c'est que nous percevons le monde à travers notre propre histoire, ce qui fait que chacun a un avis différent, et c'est ça qui produit la guerre. Et donc, la vraie question fondamentale, c'est est-ce que je peux passer d'homme qui invente le monde à un homme qui verrait le monde tel qu'il est? Et ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire. Mais peut-être que ce serait intéressant de faire une émission juste sur ce sujet-là. Parce que le point central de ça, c'est ça. Nous avons des avis divergents, des goûts différents, et on a le droit, sauf qu'on s'oppose dans ces goûts et ces avis, alors que ces avis et ces goûts sont fondés par notre propre histoire. Donc elles respectent notre propre histoire, mais elles n'ont pas de valeur en soi. Or nous, après, on pense que ça a une valeur en soi. Et c'est là où on se trompe. Et c'est là où on fait des guerres.
Votre point de vue n'est pas récent et résume un petit peu. Hein, je pense à Marc Aurèle qui disait « Oublie tes opinions et tu seras sauvé ».
Oui,
donc,
oui.
Ça fait peut-être, même si on s'en réfère à certaines tribus primitives qui étaient en osmose totale avec le monde, peut-être trop fusionnelles, il n'y avait peut-être pas de distance vers le monde, mais en tout cas, elles avaient moins d'opinions, elles superposaient moins d'interprétations du monde que nous. Donc, peut-être même aurions-nous régressé de ce point de vue-là avec cette technologie qui nous aurait coupé de facultés psychiques que nous aurions perdues.
Mais je crois que le mouvement est en même temps irréversible. C'est-à-dire que nous avons une histoire, et cette histoire, nous avons de plus en plus conscience, et que je crois que l'évolution a voulu ça, que nous ayons une histoire. Mais que pour qu'il y ait un moment où cette histoire personnelle crée trop de difficultés dans le quotidien, pour que nous nous arrêtions et que nous nous retournions vers nous-mêmes, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec vous, Louis, c'est se retourner vers soi-même pour se rencontrer soi-même, se mettre en paix avec soi-même, et ce travail de se rencontrer soi-même dans comment nous sommes construits, se mettre en paix avec comment nous sommes construits, fait qu'à ce moment-là, quand nous revenons voir le monde, nous sommes devant le monde tel qu'il est et non plus tel que nous l'inventons. Peut-être qu'on pourra prendre un exemple, je ne sais pas. Mais notre passé interfère sans arrêt sur notre lecture du présent, c'est ça qu'il faut comprendre. Et elle le perturbe.
C'est quoi cet exemple ?
Écoutez, l'exemple que j'aime le plus parce qu'il montre à quel point les choses peuvent être douloureuses et en même temps graves, c'est une femme, je suis donc gynécologue-obstétricien, tout le monde le sait, c'est une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui en souffre et qui reste dans cette infertilité très longtemps. Elle le dit elle-même, hein. Elle ne supporte plus les femmes enceintes qui leur rappellent qu'elles ne sont pas enceintes et qu'elles aimeraient l'être. Elle ne supporte plus les enfants qui leur rappellent qu'elle aimerait avoir un enfant et qu'elle n'en a pas. Mais que c'est ce passé récent qui fait qu'elle ne supporte plus les enfants et les femmes enceintes. Parce que la même femme, mais qui pour des raisons personnelles de sa vie se dit « bon, ben, j'aurai pas d'enfant, mais finalement, belle aubaine, je vais faire autre chose, il y a plein de choses qui me passionnent sur Terre », elle n'en souffre pas, et donc elle continue à avoir des relations normales avec les femmes enceintes et les enfants. Et donc ce que je veux dire, c'est que cette douleur de ne pas avoir d'enfant, qu'on peut comprendre, parce que je pourrais éventuellement vous montrer à quel point c'est puissant, à quel point je comprends la douleur des femmes dans cet instant-là, hein. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet et j'ai dit beaucoup de choses là-dessus aussi. Mais à quel point ça va produire une aigreur envers les femmes enceintes et les enfants qui n'y sont pour rien. Et que donc si cette femme ne s'apaise pas, toute sa vie elle va traîner ses douleurs comme un abcès sur l'âme. Et donc cette douleur du passé agit sur la lecture du présent et coupe d'une partie du monde. Fait diminuer cette banque de l'amour. Alors que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aimer les femmes enceintes, les enfants, les hommes, etc. etc.
Alors ça, ce sont les prochaine proposition, est-ce que vous souhaiteriez que nous abordions, alors on l'a fait légèrement avec Monsieur Tournier, les actualités un tantinet plus lointaines du centre de l'Aube ?
Bah écoutez, il y a toujours les week-ends naissance, hein, puisque là, on est au cœur du couple, au cœur de la parentalité, au cœur du désir d'enfant aussi, donc dans quelque chose qui est extrêmement fort et qui va agir profondément sur toute la vie du couple. Et là, il y a un week-end aussi non, qui est assez proche, puisqu'il est le 12 et le 13 décembre. Ça, c'est des activités qu'on a régulièrement à l'Aube, tous les mois et demi à peu près, avec l'association des drôles de maman, qui porte un peu, du point de vue, non plus des professionnels, mais des utilisateurs, tout ce que nous faisons avec les vacances, drôles de maman, etc. Et puis il y a toujours bien sûr des choses que je fais sur la sexualité. La sexualité c'est une partie extrêmement importante du couple, c'est une partie qui peut permettre vraiment la réjouissance des corps et en même temps la communion des esprits. Il y a quelque chose qui est extrêmement intime dans la sexualité et je pense qu'elle n'est pas appréciée dans sa bonne dimension avec tout ce qu'en disent les médias, excusez-moi Louis, mais très souvent ce qu'on entend sur la sexualité ça déforme un peu la sexualité. Bon, vous savez aussi que je fais des émissions régulièrement avec Brigitte Lahaye sur le sujet, qui est la grande prêtresse, comme on l'appelle, de la sexualité et qui essaye de donner une belle dimension à la sexualité. J'étais avec elle il y a quelques jours. Voilà, et puis ça, c'est pour la sexualité. Et puis, il y a d'autres choses que je fais aussi, c'est sur la ménopause, qui est, on va dire, 40, 50, 60 ans, où là aussi, on a toujours l'impression que c'est une déchéance, que c'est une perte, alors que pour moi, la ménopause est une chance. Ces étapes 40, 50, 60 ans, qui sont beaucoup plus larges que la ménopause d'ailleurs, sont une préparation à une autre vie, à quelque chose de beaucoup plus puissant. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Et que donc, je veux à tout prix faire tout ce que je peux pour faire entendre à quel point c'est un début. Et là, j'étais récemment à Grenoble avec que des femmes d'ailleurs sur le sujet qui étaient très intéressées. Donc voilà, il y a aussi tout ça sur la ménopause. Et puis, il y a un stage sur le jeûne qui est beaucoup plus loin, celui-là, jeûne. Mais ce stage sur le jeûne, il n'est pas qu'axé sur le jeûne. Il a comme but d'en profiter pour faire un bilan de sa vie. Et ça aussi, ça me paraît une notion absolument essentielle. C'est que notre vie, ben, elle a un axe. Et puis cet axe, on a tendance à ne pas le réactualiser. C'est-à-dire que bon, on a voulu faire un certain nombre de choses. Et puis, finalement, pris par le courant de la vie, on oublie un peu de s'arrêter, de faire le point. Comme un bateau qui navigue, bah, y a des courants qui peuvent dériver, il y a des vents, il y a un certain nombre de choses. Et donc, il faut de temps en temps s'arrêter et se dire où j'en suis, où est-ce que je veux aller et est-ce que je vais dans la bonne direction. Et ça me paraît essentiel réellement, parce que j'ai trop souffert de voir dans ma profession des femmes qui avaient trop longtemps négligé de faire ce point et qui tout d'un coup n'avaient plus la force de rééquilibrer l'axe pour que leur bateau aille où elles souhaitaient que ça aille.
On peut citer aussi donc ces trois week-ends qui aura lieu sur le thème « Moi et mon argent » qui seront ?
Bien sûr, qui seront exactement les dates, donc ça sera le week-end du 9 et 10 janvier. Le deuxième week-end de cette session sera le 13 et 14 février. Et enfin, le dernier week-end sera le 12 et 13 mars en 2016. Donc,
voilà. Pour ce faire, pour s'inscrire à ces ateliers, je suppose qu'on peut donner un numéro de téléphone.
En effet, on peut s'inscrire au Centre de l'Aube par téléphone au 04 75 40 03 24. Donc 04 75 40 03 24. Donc la permanence est du lundi au vendredi de 12h30 à 14h. Voilà, donc il y a des gens qui vous répondent, qui peuvent vous inscrire, qui peuvent vous donner des renseignements. Il y a aussi le site de l'Aube sur lequel il y a un certain nombre d'informations. Bon, ce site, on va le restructurer complètement. Il est un petit peu dépassé. Donc, on a un grand chantier qui commence sur ce site prochainement. Et puis, moi, j'ai un site, en ce qui me concerne, un blog, hugren.com. Donc, H-U-G-U-E-S. Il n'y a pas de point. Hugren, R-E-Y-N-E-S.com, sur lequel il y a toutes mes activités et puis un certain nombre de choses que je peux dire ou sur les actualités ou sur des choses qui m'importent. Et aussi, je fais des vidéos une par semaine pour l'instant sur des sujets aussi que je trouve importants. Là, j'en ai fait une, en effet, sur les attentats. Mais la dernière avait un autre sujet totalement différent. C'était sur la grossesse pour autrui. Donc voilà, je donne des sujets comme ça.
Il n'en reste pas moins que ce site qui est en restructuration permet de s'inscrire quand même.
Oui, tout à fait. Alors s'inscrire, de prendre des renseignements, d'avoir tout ce qu'il faut. Mais voilà, je demande un peu de tendresse pour notre cycle vieillissant, notre site vieillissant par contre, et qui va reprendre une nouvelle jeunesse prochainement.
Oui, moi je veux faire juste un petit complément aussi. C'est, bon, toutes les informations, on les trouve sur le site que l'on a cité. Hein, c'est, d'ailleurs, je vais peut-être le répéter. C'est www.aube-6. association.com. Et donc, pour l'action, moi spécifiquement, moi et mon argent, vivons-nous bien ensemble, on peut aussi me contacter sur la boîte mail de l'association. J'ai créé une association qui supporte cette action qui s'appelle Itinéraire Citoyen, pardon d'avoir pris le sujet, quoi. Et donc, l'adresse de cette boîte email, c'est itcy, donc itcy@orange.fr. Voilà.
Pour les auditeurs, je mettrai toutes ces coordonnées sur le site. Vous n'aurez qu'à taper, ça apparaît en rouge, que ce soit les blogs, les sites internet, voire les mails. Merci Hugren et Jean-Luc Tournier d'être passé à RDIWA pour parler de ces sujets qui nous concernent tous. Hein, le fait d'avoir notre banque d'amour rechargée à bloc, c'est oui. Mieux pour tout le monde et pour soi-même.
Bien sûr. Merci Louis de nous avoir reçus. Merci
oui,
beaucoup.
Merci à vous Louis.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.